Il y a des périodes où les temps de Dieu sont importants, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour demain. Car notre vraie place, elle est plutôt dans ce qui sera demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous passons la journée. Nous passons nos journées. Mais c'est demain qui montre ce qui a été construit. Et la paracha de cette semaine rejoindra un peu ce que je n'ai pu vraiment développer, mais de manière restreinte, c'est Vayéhi. Et veut dire « et il vécut ». En même temps, ça tombe dans cette période de nouvelle année, dans le calendrier grégorien, civil. Qu'est-ce que ça veut dire « il vécut » ? Qu'est-ce que ça veut dire « vivre » ? Pas vivre simplement dans une définition, dans une compréhension, mais qu'est-ce qu'on a vécu dans une vie ? La vraie question qui est posée par la paracha, c'est qu'est-ce qui est vécu et qu'est-ce qui restera de ton vécu ? Qu'est-ce que ton vécu apportera à la génération future ? Est-ce que ton vécu ne sera simplement qu'une histoire qui sera peut-être relatée par quelqu'un de la famille en disant un certain nombre de choses ? Ou la personne tombera peut-être dans l'oubli ? Ce qui est important, c'est la manière dont l'histoire se marque, la manière dont nous marquons l'histoire, et en même temps, de comprendre l'histoire. Il y a tellement de choses que les gens ne comprennent pas. Et je dirais, même si nous avions une vie encore de 100 ans de plus dans le futur, est-ce que l'on comprendrait le vécu ? Je crois que c'est impossible. On aurait peut-être plus d'informations, peut-être plus de compréhension sur certains points, un plus grand recul sur l'analyse, mais ça ne veut pas dire que nous comprendrions le sens de notre vie. Ça ne veut pas dire que nous saisirions réellement le sens de la vie. Parce que quand il n'est pas vécu en rapport avec Dieu, il y a une absence. Il y a quelque chose qui fait que, comme on dit couramment aujourd'hui, qui nous fait tourner en rond et qui fait qu'on cherche constamment et qu'on ne trouve jamais. Trouver le sens, c'est là le but d'une vie parfois. Donc il vécut. Mais qui a vécu ? Yaakov. Et il vécut il y a très longtemps. Et des millénaires, Yaakov. En quoi ça vous intéresse son vécu ? En quoi son vécu peut nous intéresser au XXIe siècle, à l'ère de la technologie, du nucléaire, de tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui, de toutes les informations qui vont à vitesse grand V à la fibre, à la DSL de plus. Et à tout ce que l'on veut, l'information, en quelques secondes, en quelques minutes, nous avons dans nos ordinateurs la réponse par email. Parfois du tac au tac, dans l'instantané. Nous avons les téléphones, les mobiles, on peut être dérangé partout. On peut être contacté partout. Il n'y a plus beaucoup de limites. Alors, dans ce contexte-là, quand nous parlons du Tanakh, donc de la Bible, et que nous nous arrêtons sur cette histoire de Yaakov, en quoi cet homme qui n'a pas la technologie peut-elle nous intéresser ? Il vivait avec les chameaux, les brebis, il était tranquille. En quoi son histoire va-t-elle nous instruire ? Est-ce que son vécu va nous parler ? Ou est-ce que son vécu va nous laisser indifférents ? Et c'est là tout le sens de Vayéhi. C'est que tous les vécus de ces hommes qui ont écrit l'histoire ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ils ont une marque de l'éternité. Ils ont une telle dimension de vie en Dieu, de cette éternité que l'homme ne comprendra jamais, car tout est lié même à cette dimension du futur. Et en même temps, nous voyons un homme qui a été énormément éprouvé dans sa vie. Yaakov est une vie de combat, une vie de douleur, de souffrance. Rappelez-vous la semaine dernière ce que nous partageons quand les frères sont venus et annonce à Yaakov, ton fils est mort. Celui que tu aimes, pas n'importe lequel d'entre nous, pas celui qui te laisse indifférent, celui, justement, que tu aimais le plus, ton chouchou, celui qui était la consolation de ton cœur dans ta vieillesse, celui sur lequel peut-être tu misais, il est mort. Et personne ne peut mesurer le degré, le niveau de la souffrance vécue dans l'émotion de Yaakov. On n'a pas l'unité de mesure du stress à ce moment-là. Mais Yaakov a une vie brisée de ce jour. Il a déjà eu la vie brisée avec Ésav, une vie où il a dû toujours être séparé, être au loin. Et puis il revient et ce vécu avec Ésav se passe encore pas trop mal. Et puis voilà qu'il y a le problème familial et tout à coup on fait disparaître un petit, un jeune homme, Yosef. Et on vient dire à Yaakov, eh bien, celui que tu aimes, ce petit, ce fanfaron, est mort. Et la vie de Yosef, de Yaakov, a été brisée, et c'est là qu'il s'est dirigé vers la mort. On ne peut pas mesurer l'importance de cette souffrance par rapport à cette nouvelle qui a détruit, en quelque sorte, la vitalité, peut-être même l'espérance de Yaakov, et de se dire, eh bien, je n'ai même pas pu l'embrasser, je n'ai même pas pu le voir, puisqu'on lui a fait croire qu'il avait été dévoré par une bête sauvage, et que le dernier regard qu'il a eu de Yosef, c'est le moment où il est parti avec ses frères. Et il se dit, ben voilà, je ne le reverrai jamais plus. Et donc c'est tout ce que nous avons développé plus ou moins aussi avec Yosef la semaine dernière. Et de voir que la souffrance peut avoir un sens, mais elle peut briser tout en nous laissant dans l'espérance. Et cette paracha, même si elle nous relate une histoire très lointaine, qui apparemment pourrait être tout à fait banale, une simple lecture, une lecture biblique, une lecture pour instruire les enfants, pour raconter quelque chose, ou pour nous en tant que juifs aussi, de pouvoir relater notre identité de base, ce qui a fondé Israël, ceux qui ont été les fondateurs d'Israël. On aurait pu, mais ça va plus loin. Et Vayechi nous démontre, il vécut. Et il vécut, ça veut dire aussi pour chacun de nous, qu'est-ce que nous allons laisser comme marque? Quel souvenir laissera-t-on aux gens? On sait que dans les conflits, on laisse un mauvais souvenir. On sait qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas bonnes au niveau relationnel et qui peuvent générer des mauvaises opinions. Ce n'est pas de ce vécu-là que je parle. Je ne parle pas d'un conflit qui détermine, mais toute la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va laisser comme impact? Je veux dire, pas un passage avec une personne où ça s'est mal passé. Il y aura toujours des passages comme ça. Mais dans tout son vécu, l'ensemble des années. Et nous voyons là maintenant Yosef qui a accueilli Yaakov et ses frères, et qui les a reçus et qui a dit un certain nombre de choses de la part de Dieu. Et il a dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu a précédé votre futur. Ce qui est en train de se produire, ce n'est pas simplement une fatalité où j'ai prévu par rapport à la famine que peut-être je vous reverrai un jour. Il savait qu'il les reverrait. Vous imaginez dans ce temps de la vieillesse où Yaakov a beaucoup vieilli par la souffrance. Il a beaucoup vieilli, il a beaucoup perdu de vitalité. Et tout à coup, il revient et il voit un Yosef qui a grandi. Il voit qu'il y a tout un vécu qu'il n'a pas vécu avec cet enfant. Il voit qu'il y a toute une dimension où il y a comme une rupture de l'histoire, de la relation. Et il se dit, mais j'ai raté quelque chose ou quoi? Et nous voyons bien là que quand Yosef les reçoit, et qu'il y a eu ce temps, cette famine, et tous les problèmes qui y sont associés, nous amène à réaliser que ça aurait pu s'arrêter là, une belle histoire. L'histoire des retrouvailles, une réconciliation, une jolie prédication, une jolie, voilà, un joli souhait aux uns et aux autres. Et dire, bien voilà, c'est terminé. Mais en fait, cet événement va beaucoup plus loin. Et il nous faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je ne pourrais pas aller dans toutes les profondeurs, tellement c'est profond, mais de voir progressivement comment l'Éternel construit, bâtit un certain nombre de choses, parce qu'il nous inclut dans l'histoire. Notre vécu est écrit. Il n'est pas absent de l'histoire. Alors, cette paracha nous amène à comprendre quand même que Yaakov est celui qui, avec Yosef, est ce qui va se produire dans ces derniers moments de la vie de Yaakov, dans ces derniers moments de souffle de vie. Eh bien, nous allons voir qu'il va devenir la neshama d'Israël, l'âme d'Israël. Comment l'âme d'Israël va commencer à naître. Que le peuple juif, il est lié à une essence. Et que cette âme juive n'est pas formée sur seulement Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais qu'elle est formée aussi sur les 12 fils de Yaakov. Et qu'elle est profondément construite sur les brachot, c'est-à-dire les bénédictions qui ont été formulées. La manière dont Yaakov a parlé à chacun de ses fils. Et tout le sens de Vayechi, il vécut, est dans ses paroles. Ce n'est pas tout ce que j'ai fait dans ma vie, de bien ou de mal. C'est comment j'ai fini ma vie. Mais en même temps, tout le vécu, tout le sens du vécu de Yaakov va passer par les 12 brachot, les 12 bénédictions. Il va prendre chacun. Et à chacun, il va lui parler. À chacun, il va définir son âme future. À chacun, il va définir son identité, son rôle dans le futur, jusqu'au temps de la fin du règne du Messie. Car, vous allez le voir, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir à quel point des hommes qui ne savaient pas ce qui allait se passer vont être les acteurs principaux de notre actualité aujourd'hui. Et de manière magistrale, et je ne peux pas aller dans la profondeur, c'est dommage, pour vous comme pour moi, mais on aura l'occasion, ne soyons pas pressés. Saisissons déjà le premier niveau avec le cœur. Donc, tout est vécu de manière intense par les 12 fils. Et les 12 fils vont marquer la continuité de Yaakov. Donc, il vécut, mais il continue de vivre. Parce que la bénédiction de Yaakov ne s'arrête pas simplement à quelque chose où chacun connaît cela un peu partout. Aujourd'hui, on prie, puis on oublie. On prie, on pince, et on reprie, puis un autre prie, et puis quelqu'un vient, et il prie encore, et on prie tout le temps, et on change de prière, et on change de monsieur qui prie. Ça, c'est courant. Ça, c'est la méthode aujourd'hui. C'est pas ça. Et il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de futur là-dedans. Il y a du soulagement, il y a de l'attention, de l'affection. Mais est-ce suffisant pour construire l'éternité? Non. Et justement, là où il y a l'extraordinaire de Dieu, c'est de voir que dans ses brachot, dans ses paroles, dans des paroles qui sont simples, qui ne sont pas des longs discours, tout le futur leur est donné. À eux et à toute la descendance jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, on peut relever que, pourtant, dans cette paracha, il va y avoir des anomalies, mais pas vraiment une anomalie, quelque chose qui n'est pas normal, qui est plutôt étrange, et en même temps, qui peut nous dérouter. Parce que nous voyons que Yaakov et Yosef ont tout un vécu qu'ils n'ont pas vécu ensemble. Et au lieu de donner la bracha à Yosef, il va la donner à ses fils qu'il ne connaît pas, enfin les petits-fils, les fils de Yosef, Éphraïm et Manaché. Il va prendre les deux comme représentants de Joseph. Or, Éphraïm et Manaché, qu'ont-ils à voir avec la descendance d'Israël? Et on pourrait même aller plus loin en disant, mais est-ce que Jacob n'a pas fait une gourde en prenant, non pas le fils légitime lié à l'héritage physique et spirituel, et quelque part que Jacob avait vu naître, avait quand même connu un petit peu, pourquoi va-t-il prendre les deux petits là, qu'il ne connaît pas, et qui peut nous paraître quand même assez étrange, parce que ces enfants-là sont nés d'une femme égyptienne, Asnath. Et en même temps, Yosef a grandi dans une autre forme de culture, tout en restant fidèle à Dieu. Et on pourrait dire, mais est-ce que Yaakov, vraiment, n'a pas trop vieilli à ce moment-là? Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur? Eh bien non. Mais tout un sens est donné. Et je vais peut-être plus insister là-dessus, pour bien comprendre les fondements de certains points. On peut dire, tout d'abord, que ces deux enfants ne sont pas les vrais fils de Jacob, mais les fils de Yosef. Et vous verrez que dans toute l'histoire d'Israël, jusqu'à l'époque du roi David, jusqu'à notre époque aujourd'hui, ça ressort. La descendance, là, elle ressort. Et on peut se dire, mais il y a quelque chose quand même à découvrir. Et l'Éternel nous amène maintenant à réaliser que il nous faut comprendre et accepter que ce sont ces deux-là qui vont recevoir la bénédiction, l'héritage. Mais ils vont recevoir quoi dans cette bénédiction et cet héritage, comme tous les autres enfants de Jacob? Ils vont recevoir un statut, une âme du futur, une construction de la rédemption. Ils vont recevoir quelque chose qui va les établir comme étant légitimes et devenant les tribus d'Israël. Le statut de tribu, quand on parle des tribus d'Israël, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. On pense que c'est simplement 12 noms qui sont mentionnés avec 12 portions territoriales, avec un ensemble de choses, et puis bon, ben voilà. Et ça va beaucoup plus loin, parce que dans la pensée juive et rabbinique, lorsqu'on approfondit dans l'hébreu, on se rend compte que le statut de tribu, quand il est attribué à une descendance, ce n'est pas n'importe quoi. Et surtout lorsqu'il est fait par le Dieu de toute éternité. Et il nous amène à comprendre que quand Jacob a béni et qu'il leur dit ce que seront le futur, les enfants dans le futur, et ce qui arrivera dans le futur, même la royauté du Mashiach. Et on pourrait sortir toutes les prophéties messianiques. Et de toi, le sceptre ne s'éloignera pas de Yehuda, le chevet, le bâton. Et on comprendrait plein des choses là-dedans. Mais Yehuda et Yosef vont devenir presque comme des ennemis, incompatibles. Et la plaie du futur. Au point qu'au temps du roi David, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de complications à cause de ça. Et on a vraiment besoin d'éclairer notre lanterne intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée d'Israël lorsqu'il y a cette transmission, cet héritage que Jacob va formuler? Ça veut dire qu'il donne une âme, une neshama. Il dit qu'il reçoive une âme. Une âme, chez nous, veut dire aussi être un peuple, âme. Un peuple. La naissance d'un peuple. Il dit, voilà, au travers des 12, ce que sera la naissance d'un peuple. Mais dans ce peuple, il y aura 12 orientations, 12 positions, 12 niveaux spirituels, 12 niveaux liés à la rédemption, jusqu'à la rédemption finale. Et il y a une chose qui est étrange, c'est que pour moi, ce n'est pas une anomalie, mais c'est étrange. C'est que Yosef ne reçoit pas cet héritage. Pourtant, c'est le plus légitime. C'est pas de sa faute si on l'a vendu, si on a fait croire à Yaakov qu'il était mort. Il n'y est pour rien dans tout ce qui s'est produit et passé. Au contraire, Yosef fait tout pour que les relations soient rétablies. Et puis on voit bien que Yaakov ne va pas vers Yosef. Alors il nous faut comprendre que les 12 sont des âmes, ce qui veut dire, pour être plus précis, une naissance, un peuple. Et ce que l'on détermine dans la pensée juive, c'est qu'en eux réside l'éternité. Parce que dans les brachot qui ont été donnés, ne résident pas que des paroles, des consolations, des gentillesses, des affinités particulières de l'un par rapport à l'autre, de quelque chose où on pourrait marquer la différence affective, simplement quelque chose qui, humainement parlant, aujourd'hui, serait en fonction du ressenti, peut-être du vécu, de la compréhension, mais ça n'irait pas plus loin. Là, nous savons qu'il leur donne la possession de l'éternité, de l'accomplissement des temps futurs. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on parle de l'âme juive, Nefesh Yehudit, comme Marshava Yehudit, la pensée juive, l'âme juive, est quelque chose qui, aujourd'hui encore, existe. Et on voit bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire parce que lorsqu'on veut l'approfondir, on dira tout simplement que chacun de ses 12 fils mettra au monde l'identité totale complète d'Israël dans la rédemption. Et le Mashiach sera le premier jalon de l'accomplissement, le Messie. Mais il ne faut pas confondre qu'une partie de l'accomplissement, il faut comprendre l'accomplissement total. Si nous nous arrêtons qu'à la venue rédemption salut du Mashiach et que nous disons il n'y a pas de continuité à l'histoire, quel est le sens? Il n'y a plus rien. Si ce n'est simplement que de faire quelque chose où aujourd'hui devient de plus en plus restreint. Qu'est-ce qui est à venir? Et c'est la question qu'il faut se poser. C'est que la rédemption inclut encore plus loin que cet événement. Et Mashiach lui-même le transmettra plus loin. Donc l'identité d'Israël, elle va se forger jusqu'à ce que le règne de Dieu soit établi. Là, tout prendra le sens. Alors, on va commencer maintenant à orienter un petit peu. Vous savez que dans les temps de la fin, il y a un signe qui ne va pas tromper en dehors de toutes les catastrophes et de tout ce qu'on nous raconte. En dehors de toutes ces réalités que je ne peux pas nier et qui sont totalement justes et dont on est tout à fait au clair et au courant, en tout cas en ce qui concerne Israël. Pour ceux qui sont aveugles sur Israël, il est sûr et certain qu'il y a un voile sur la compréhension de ce qui est à venir. Et une compréhension aussi par rapport à la manière de préparer, de se préparer, de vivre. On peut toujours chercher délivrance, ok, mais après, il y aura peut-être problème. Et là, on prend le chemin qui oriente et qui nous oriente dans la gloire de Dieu et qui nous amène à réaliser que ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors, l'une des choses dont beaucoup, malheureusement, ne tiennent pas compte, l'un des signes qui est un véritable miracle, qui marquera les événements, c'est la réunification des tribus d'Israël. Elles ont été séparées au temps de Jéroboam. Elles se sont dispersées. Elles sont jusqu'à l'heure actuelle, comme on dit, non pas perdu, mais dispersé. Et que de l'Inde, on en a ramené. Qu'aujourd'hui, les tribus d'Israël se reconstituent. Attendez, réfléchissez 5 minutes. Quel est le sens de cette réunification, de ce retour des 12 tribus est-ce si important dans la modernité d'avoir 12 tribus? Autant des patriarches, ça se comprend. Mais là, aujourd'hui, Israël est un État, selon la politique moderne, un État moderne, qui doit disparaître. Et que, finalement, quel serait l'intérêt d'un Benjamin Netanyahou de parler des 12 tribus? Okay. Pourquoi ce souci, au XXIe siècle, d'aller chercher toutes les tribus dispersées et de les rassembler? Comme au temps de Jacob. Jacob a rassemblé, avant de mourir, avant de partir, il a rassemblé les 12 et les a unifiés. Qu'a fait Yosef? Il a fait en sorte que tous soient réunis avant de mourir. Et nous pouvons comprendre, et j'irai un peu plus dans la profondeur après, que cette réunification a un sens et un symbole. Mais j'aimerais juste orienter dans un deuxième pôle. Nous pouvons le comprendre dans le temps où Jacob est sur le point, on le sait bien, de mourir, puisque c'est le dernier livre de Bereshit. C'est le moment et le temps où nous allons passer à Shemot, à ce temps où Dieu va construire la nation d'Israël, et au travers des Moshé. Et nous voyons bien là que ce temps où Jacob va mourir, eh bien, il y a cet événement saisissant. Avant de mourir, il transmet. À 12, gardez le chiffre 12. L'un des événements les plus saisissants sera celui du Mashiach lui-même. Avant de mourir, il a réuni les 12. Il a réuni 12, non pas tribus, ce qui est assez étonnant. Mais il va réunir 12. 12 Talmidim. Les 12 qui ont été avec lui, qui ont été choisis. Les 12 qu'il est allé chercher, comme Pierre. Où il lui a même, à un moment donné, provoqué. Quand il lui dit, l'autre, ben moi j'ai pêché toute la nuit, j'ai pas pris un poisson. Et lui, Mashiach, il dit, tu jettes les filets là. Quand on a été à Tibériade, ben dis donc, il faut vraiment de la foi pour avoir jeté le filet là. Hein. Et lui dit, jette les filets. Et l'autre, il n'arrive plus à le remonter. Purée, toute une nuit, t'as pas un poisson? Tu jettes à droite, t'as tous les poissons. Tous les poissons du lac. Ah, brochet. Le Saint-Pierre, enfin, il n'existait pas à l'époque Saint-Pierre. Tous les trucs comme ça, mais c'est extraordinaire. Et nous voyons bien qu'il les a choisis. Et il a passé 12 heures de prière, une heure pour chacun, et ce chiffre 12 marque, martèle, de manière extraordinaire. On va plus loin. C'est que Mashiach, le Messie, ne va pas donner une descendance spirituelle aux 12 fils de Jacob, mais à ceux que lui-même aura engendrés, donc avec Toldot, lui-même ceux qu'il va engendrer dans le salut, dans la rédemption, pour les envoyer, pour leur donner la mission. Et à partir de là, nous voyons qu'ils vont devenir une forme de 12 tribus spirituelles. Ils vont devenir, en quelque sorte, non pas des remplaçants, et là, la théologie de la substitution s'effondre. Yeshua, Mashiach, ne remplace pas l'identité d'Israël et de Jacob. Il la complète. Parce qu'il y a une chose qu'Israël ne fera jamais, c'est de vouloir convertir de force les nations. Mais Mashiach a donné aux Shlechim la capacité, même la puissance et autres, pour aller dans toutes les nations. Et là, on va commencer à toucher un peu des choses profondes. Parce qu'il nous amène à voir un parallèle saisissant. C'est que non seulement Jacob réunit ses enfants, mais Mashiach réunit aussi ceux qui sont en quelque sorte ses fils. Et quand on voit cela, il y a un mystère qui est contenu dans cette paracha qu'on ne va pas développer maintenant, mais qui touchera plus tard, si vous suivez, c'est que Jacob et Yeshua, donc Mashiach, ils ont un point commun. Ils ont un point commun dans cette transmission du chiffre 12. Dans quelque chose qui est mentionné de manière très claire et très nette, c'est qu'il nous est dit que Yaakov n'est pas mort. On ne parle pas de la mort de Yaakov, non ? Vous ne vous rappelez pas de la paracha l'année dernière ? Bonne mémoire. Yaakov n'est pas mort. Il a eu une interruption de respiration. Ah, quelle est la différence ? Aïe Sarah, Sarah est morte et enterrée. Yaakov est transporté. Et il nous est dit que l'âme de Yaakov n'est pas morte. Elle a continué à vivre. Alors, c'est trop long pour donner tous les détails, mais la paracha de l'année dernière l'explique très très bien. Ce que veut dire la respiration, le souffle. Oui, il est mort à cette vie, mais il n'est jamais mort par rapport à ce souffle divin qui était en lui et qu'il a transmis. De même, le Messie n'est pas mort. Ce n'est pas seulement qu'il est ressuscité qui est important. Beaucoup, dans la doctrine, accordent une importance, voire capitale, à cet événement. Mais la réalité, c'est quoi ? Mais c'est que jamais, à aucun moment, le Messie n'a connu la vraie mort. Il a vaincu, il a traversé. Et c'est ça qu'on peut appeler la résurrection. C'est le souffle de Dieu. Et donc, on peut dire que les deux, puisqu'il est écrit que Mashiach a expiré, il est dit qu'il a expiré, que son souffle l'a quitté, et que c'est ce que nous pourrions appeler la mort, la fin de la respiration. Et pourtant, nous voyons que le Messie n'est pas mort, puisqu'il revient. Non ? Donc comment il peut ? Ben parce qu'il n'est pas mort. Je vous laisse chercher davantage. C'est votre rôle. Je ne vais quand même pas vous servir comme sur un plateau, non ? Aïe, aïe, aïe. Travail de la semaine. Et c'est extraordinaire parce que quand on approfondit le souffle divin, Dieu ne peut s'arrêter. La Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu, existe, 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 existe. Et donc, nous devons comprendre, oui, nous sommes obligés de mourir à cette existence, mais pas dans l'autre. Votre résurrection, si vous voulez parler comme cela, dépend non pas de votre gentillesse, votre politesse, votre fidélité à être un auditeur oublieux, un puissant guerrier inactif. Pas de sens. Consiste simplement que la Ruach nous ramènera à l'existence là. Et que c'est ça vaincre la mort. Beaucoup ont peur de la mort. À la souffrance, la maladie, machin et tout. Okay. Mais je dirais que beaucoup plus de gens aujourd'hui ont peur de vivre. On va plus loin. La paracha, elle nous révèle le secret de la rédemption accomplie totalement. Et Yosef marque par ses deux fils les tribus dispersées qui vont être réunies. Manaché, Ephraïm. Et nous comprenons bien que là, nous allons dans quelque chose qui nous amène à l'accomplissement dans la fin des jours. Et que si nous saisissons ça, nous allons comprendre quelque chose par rapport à même tous les événements qui se produisent, qui ont l'air dispersés. Tous les événements ont l'air dispersés. Ce qui se passe en Syrie est dispersé. Ce qui se passe là-bas est dispersé. Ce qui se passe là est dispersé. Les accidents d'avion, les ceci, les cela, les attentats, tout a l'air une actualité différente. Mais en fait, regroupez, et vous allez voir que ça donne quand même quelque chose d'assez lourd, sans compter l'économie. Ah oui, la visibilité de Hollande, elle est très rassurante. Vous savez, il vous dit ça avec un sourire que tu as envie de le croire. Et oui, quand il vous dit que dans quelques années, tu devras continuer de travailler parce que tu n'auras pas de sous de retraite, donc tu cotises, mais tu n'as pas de sous. C'est bien ça. C'est comme le loto, ça rapporte gros. Je crois qu'il est très important de comprendre que le Messie, qui est appelé par le Rav Kook, mais aussi par d'autres qui ont établi la dimension des deux Mashiach, pour ne pas croire dans le Messie Yeshua comme étant un seul et même Messie qui accomplira tout, ils vont le diviser en deux. Ils vont l'appeler Messie Ben Yosef et ils vont l'appeler Messie Ben David. Et nous allons voir la contradiction. Messie Ben Yosef va devenir contradictoire à Messie Ben David. Mais en même temps, ils vont appeler le Messie Ben Yosef comme étant celui qui va souffrir et qui va symboliser Israël souffrant dans le monde pour faire la rédemption des nations et du mal dans le monde. Donc Israël va devoir passer par une espèce de mort que certains rabbins appellent aussi la Shoah, et qu'il a fallu tout cet événement tragique pour qu'il y ait le début du rassemblement des exilés d'Israël sur la terre d'Israël en vue du pardon futur que Dieu va leur accorder, qui sera la rédemption, et donc au travers du règne du Messie. Ils en sont. Et à partir de ce moment-là, ils n'attendent plus non le Messie Ben Yosef, ils attendent maintenant le Messie triomphant lié à la royauté, le Messie Ben David, celui qui est de la descendance davidique, celui qui porte la royauté, celui qui sera le roi de toute la terre lors de la fête de Sukkot. Et pourtant, on se dit, mais c'est un seul nom, Hachem Echad. Il ne peut pas y avoir deux noms dans deux entités si différentes l'une de l'autre. Nous savons que dans le principe hébreu, il est possible que le Messie se révèle comme ça, comme ceci ou comme cela. Ça fait partie. Et aujourd'hui, ils attendent encore un Messie qui n'est plus un Messie, mais une ère, une époque, un temps, un royaume où c'est très vague chez eux là aujourd'hui. Selon la pensée établie par Rashi. Et puis en même temps, vous avez un autre mouvement dans le cadre d'Israël qui lui attend vraiment un Messie en personne qui va venir régner, qui était la définition de Maïmonide et qui constitue l'une des bases de l'espérance et de la foi d'Israël. Car autrement, Israël, un juif, n'a pas d'espérance dans son futur, si ce n'est le règne du Mashiach. Allez en Israël, demandez aux Israéliens s'ils sont heureux d'habiter la terre d'Israël, ils vous diront non. Vous diront non, c'est une terre dure, c'est un lieu difficile, c'est un lieu où il n'y a que de la guerre, du conflit, de la difficulté. Mais ils disent, nous sommes là parce que nous savons que le Messie va venir. C'est ce qui marque la différence. Alors, on est partagé par tout ça, et c'est pourquoi il est très important pour beaucoup d'entre nous de comprendre que c'est la fête de Sukkot qui va générer la dernière fête de l'Éternel, qui va générer un rassemblement, une réunification entre Israël et les nations. La descendance liée à Ephraïm Manaché par rapport à Israël va démontrer que oui, il y aura un rassemblement, car en bénissant ces deux enfants qui étaient les étrangers, en quelque sorte, vont devenir la manifestation réelle de l'accomplissement de la rédemption. C'est que le salut n'appartient pas qu'aux juifs, mais il n'appartient pas qu'aux chrétiens, et surtout pas, car le salut vient des juifs. Il ne vient pas de Constantin, ni de Constantinople. Il ne vient pas en plus de Nicée. Il vient de Yerushalayim, et nous devons le comprendre, que ce Messie qui envoie dans les nations, il envoie dans cette terre étrangère à des gens qui ne connaissent rien d'Israël, des Juifs, des coutumes. Enfin, beaucoup ne connaissaient rien. Et qui tout à coup vont adhérer à ce Messie. Et tout à coup, nous allons voir le coup de fouet qu'on va développer par rapport à quelque chose qui va marquer cette division, séparation, ce schisme dont j'ai parlé entre Israël et l'Église. Où tout à coup, Israël sera mis au banc des accusés, rejeté, comme n'étant même plus la base du salut, de la rédemption, de l'accomplissement du futur, mais remplacé par la toute-puissante Église de la chrétienté pendant 1000 ans, que la réforme n'arrivera pas à réformer, à changer totalement dans sa profondeur, mais que nous voyons aujourd'hui l'un des prémices les plus extraordinaires, c'est celui de voir, vous, beaucoup de non-juifs, venir à nouveau sur Israël. Et ça, on va le développer. Pourquoi ? La plupart disent, nous voulons revenir aux racines. D'accord. Hey, hey, hey. Si tu savais ce qui t'attend, c'est pas seulement allumer la bougie des Shabbats et de faire Baruch Ata Adonai. Ce n'est pas simplement non plus chanter, prier, bénir et dire c'est beau Shabbat, au moins économiser l'électricité. C'est le règne du Shabbat, c'est le règne de Mashiach. C'est comment tu vis chez toi le règne. Hein, comment tu vis cette présence de Dieu ? Et si tu ne la vis pas, tu la vis où ? En 1 heure et demie, chrono, dans une église, à forte intensité émotionnelle, de manière speed. Il y a même les nouveaux médicaments speed-fen, vous savez, pour que ça agisse encore plus vite. Donc maintenant, il y a speed-fen louange, stimulant rapide. T'es en bas, t'es en haut. Mais l'effet n'est pas durable. Il peut avoir un effet longue durée, mais il ne dure pas toute la semaine. Et la présence de Dieu est où après ? Et même si c'est dit de manière caricaturale, il y a quand même des réalités de comprendre tout le sens de la pratique d'Israël. Aujourd'hui, vous voulez revenir aux racines intellectuelles, racines spirituelles, enseignement uniquement, et puis rester dans la théorie de l'inertie, de rester dans quelque chose qui ne va pas plus loin, qui ne s'engage pas plus loin, et qui ne prépare rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez aller dire partout, je sais où est la vérité, je sais, c'est bien, mais ça ne change rien. Et justement, là nous touchons quelque chose que j'aime beaucoup particulièrement, parce que cette fête de Sukkot, et celle qui va réunir non pas une nation, mais toutes les nations. C'est toutes les nations qui vont venir. Et vous ne croyez pas que ça a commencé quand on fait nos voyages en Israël à Sukkot. Vous ne croyez pas que quand nous allons là-bas, vous savez, j'ai écrit un article là sur le TMB que vous allez bientôt recevoir. Je veux dire, quel est le sens ? Quel est le sens ? Réfléchissez 5 minutes. D'aller devant un mur et de parler à un mur. Non, mais indépendamment de ce qu'il peut représenter, surtout que ce n'est pas le mur le plus principal du temple. Et d'aller vers un mur, de l'embrasser, de lui mettre les prières au XXIe siècle. De dire, je parle à Dieu en étant devant un mur. Ça a du sens. Ça a du sens. Et bien sûr, dans la théorie, on peut tous dire, oui, selon un point de vue. Oui, tout a un sens. Parce que la tefila que Dieu, c'est pour nous attacher à lui. C'est pour que nous soyons dans la connexion avec ce qui est éternel. Et non être lié à la temporalité. Non lié à ce domaine qui, voilà, passe très vite. Chaque jour passe trop vite. Chaque jour on dit, purée, c'est déjà la fin de l'année. Enfin maintenant, on l'a commencé même. Et bientôt, quand on sera à Pessah, on va dire, déjà Pessah. Il n'y a que les vacances qui sont longues apparemment. Mais on est dans quelque chose qui doit nous parler. Et regardez maintenant le sens, la signification qui va être prise par Paul, qui est de la tribu de Benjamin. Car ce sont les trois qui sont réunis, c'est Ephraïm, Yehuda, Benjamin. Et Yehuda et Ephraïm vont être réunifiés, tel que ça s'est passé avec Yosef, par Benjamin. Et là, on peut être surpris. Donc, je vais tout simplement prendre cette image que vous connaissez tous bien, parce que tous les Juifs qui ont été dispersés pendant ces 2000 ans, et qui aujourd'hui se retrouvent sur la terre, etc., et dont nous, les Juifs messianiques, sont devenus le fruit de cet accomplissement qui est en train de se vivre au niveau de la rédemption, nous démontre qu'également, derrière ce que nous n'aurions pas pensé il y a quelques années, ce que cela, je pense, aurait été très très loin de la pensée des pionniers qui ont œuvré dans cette œuvre. Ça aurait été de voir autant de non-juifs revenir aux racines hébraïques de la foi. Pourquoi ? Je ne peux pas analyser tout le monde. Mais il y a des raisons. Mais regardez ce que dit Paul, et qui est extraordinaire. Car Paul, par moment, est un génie, et par moment, on a envie de l'avoir comme Puchitbol. En tant que juif. Il y a des choses où les traductions, c'est vrai, sont mauvaises, mais en même temps, il y a des choses qui posent problème. Et nous devons comprendre que derrière la vraie pensée rabbinique de Paul n'est en aucun cas l'annulation d'Israël dans le plan de Dieu. Bien au contraire. Bien au contraire. Même si d'autres épîtres semblent contredire Paul. Et Dieu ne peut pas être dans une contradiction. Il ne peut pas dire d'un côté, Israël constitue la racine et les racines sont saintes et c'est lui qui te porte, Église. Et d'un autre côté, dire ils sont déchus de la rédemption. Il n'y a pas de sens. Et il faut bien analyser ça. Alors comment Paul, à un moment donné, nous introduit dans cette compréhension, c'est que à cette fête de Soukhot, ne seront pas simplement réunis que des nations. Regardez bien. Politique, ethnique, mais il va réunir tous les vrais croyants. Tous les croyants en Yeshua Mashiach qui ont été mis au monde par le Messie, par la prédication des Shlichim, et de tous ceux qui sont de la descendance de Yaakov devenus Israël. Et ceux-là vont former les 24. Et vont former à la fête de Soukhot la royauté du Messie. Et que c'est extraordinaire. Parce que Paul maintenant nous amène sur la compréhension de la greffe, sur l'olivier franc. Et que là, il y a beaucoup. Parce que c'est sur la greffe qui a été faite, sur l'olivier franc qui a les racines, que la réunification entre les nations, les non-juifs et les juifs se font. Elle est sur une greffe. Et ce n'est pas dégreffé, ce n'est pas ôté. Et il n'y a aucun passage dans le Tanakh qui peut dire aujourd'hui que oui, Dieu a annulé la greffe, enfin, a annulé l'existence de l'olivier franc et a créé un nouvel arbre hybride. Un nouvel arbre avec une nouvelle sève. Vous savez, c'est très tendance. Avec d'autres données, avec d'autres enseignements, avec d'autres racines, avec d'autres patriarches. Constantin, Marcion, Tertullien, Chrysostome. Ça, oui, on peut le dire, historiquement. Mais est-ce que c'est cela que Dieu avait choisi ? Non, Dieu ne les a jamais pris, cela. Jamais. Il a pris Yohanan, Yaakov, Chéphas, etc. Et il constitue cette sève. Alors, quand Paul parle dans les Romains de la greffe, que ce qui était en quelque sorte étranger va être réunifié pour devenir un corps. Si on lit dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 14, vous le connaissez certainement par cœur, enfin je pense, Éphésiens, dans les chapitres 2, c'est sûr qu'il est très important, il faudrait le lire en entier à la maison. Mais nous, on peut commencer à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, et regardez bien, Paul s'adresse bien à des non-juifs, pour une fois. Ah. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, et il insiste, hein. Moi, t'es pas seulement païen, mais aussi dans la chair. appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis qui ne le sont qu'en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, et regardez cette parole même de Paul comme elle s'accomplit aujourd'hui. Les croyants se souviennent que le salut est venu par des juifs, par un juif nommé Yeshua Jésus. Que tous les Shlichim étaient des juifs. Que vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Yeshua Mashiach, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Attention, ce n'est pas la loi. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu. Quel programme. L'un et l'autre en un seul corps, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. On peut lire Apocalypse 7. C'est facile à trouver, c'est le dernier livre. Je suis sûr que c'est celui où vous avez le moins de difficultés. À comprendre, ça c'est autre chose. On peut lire à partir du verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Yehuda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, et on pourrait aller jusque-là. Mais ce qui nous intéresse là maintenant, c'est le verset 9. Après cela, après avoir été marqué du sceau, que toutes les tribus d'Israël réunifiées auront ce sceau, il nous est dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient où ? Devant le trône. Et devant l'agneau, revêtu de robes blanches, des palmes dans la main, c'est Pessah, Hoshiachna. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut !» C'est un peu mal traduit, mais bon. « Est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur la face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen et Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Quand on commence à comprendre, sans se lancer dans toute la définition que je pourrais reprendre d'une autre manière rabbinique, dans l'explication des chiffres du 12 fois 12, et etc., et de savoir ce que veut dire la forme géométrique cubique de Yerushalayim, d'en bas d'en haut. Mais il faut savoir que là, nous touchons quelque chose qui est extraordinaire, parce que dans ces passages, nous voyons que les choses qui ont été faites et qui n'étaient pas prévues par Yosef, ni voulues, est-ce qu'il aurait voulu être jeté par les Ismaélites auprès des Égyptiens, vendu comme esclave, trahi par ses frères, rejeté de la famille? Il n'avait pas prévu tout ça. Mais nous voyons que le fait qu'il ait mis au monde ses deux enfants change tout. Et ces deux enfants portent des noms Ephraïm et Manaché. Et comme je vous l'ai dit, ils auront un statut de tribu. Certains disent demi-tribu, et certains disent tribu. Alors certains disent il y a 12 tribus, d'autres 13 tribus. Nous pouvons dire que Mashiach avait les 12, et avec les nations, ça fait 13. Et en même temps, il y a une chose que nous devons relever à ce niveau dans Bereshit 48:8. Il est dit ici Israël, et il n'est pas dit Jacob regarda. Il est dit Israël regarda et dit, quand il voit Éphraïm et Manaché, qui sont ceux-là ? Ceci, vous avez dans vos traductions normalement. En hébreu, mi-elé. Mi-elé, qui sont ceux-là ? Qui sont-ils, ces deux ? Je ne les connais pas. Et il dit mi-elé, Yosef. Mi-elé, ça veut dire Yosef. C'est quoi ça ? Non. Jacob dit à Yosef. Ah, j'ai pas dit ça ? Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui suit. Et donc, il dit, mais elle est Yosef. Et à ce moment-là, il y a comme une interrogation. Et il dit, ce sont mes fils. Tes fils. Ils ne sont pas nés dans la maison. Ils ne sont pas nés sur le lieu de la promesse. Et on ne les connaît pas. Et Mielé comporte un jeu de mots. Si, sans vous donner tous les détails, je les passe, quand vous prenez Mielé, contient Elohim, Dieu, dans sa pluralité. Et en même temps, il veut dire que Mielé, c'est deux mots, ça veut dire que le nom de Dieu est coupé en deux et qu'il faut une réunification, autrement on est dans la séparation. La séparation, elle peut durer énormément longtemps. Mais si il n'y a pas le Mashiach qui réunit, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 2, quelque chose qui va réunir l'identité spirituelle et naturelle d'Israël dans le Messie afin de devenir un en Mashiach, alors à ce moment-là, la séparation continuera d'être. Ce qui sépare, c'est ce qui éloigne. Et ce qui continue d'éloigner, mais qui amène à l'égarement. Et quand on veut aller plus loin, Mielé contient non seulement toutes les lettres du nom, Elohim, mais il parle aussi, et c'est pourquoi j'ai introduit comme ça maintenant, il parle vraiment de la brisure spirituelle dans le cœur de Dieu, le cœur du Père. Parce qu'on parle beaucoup du Mashiach, on parle beaucoup de Jésus, on parle beaucoup de toutes ces choses, et on oublie que celui qui a envoyé Mashiach, c'est Hachem. C'est le Père. Et on a fait de Jésus le Père en même temps. Il est Père, Fils et Esprit. Enfin bref. Non, c'était un peu taquin. Mais il nous faut comprendre que là maintenant nous entrons dans un noyau important. C'est que cette brisure spirituelle, elle est écrite dans la vie de ses deux enfants. Et quand Jacob dit « Mielé, Yosef », il dit « Je vois dans le futur », parce que ce que Jacob comprend, il dit pas, il voit bien, et il est certainement que depuis qu'il est revenu sur la terre, là, il a dû les voir, les petits. Non ? Vous croyez pas ? Qu'il a dû faire le couscous, les tagines, les falafels, les oignons, parce qu'ils étaient bons. En tout cas, ils sont moins empoisonnés que maintenant. Ils ont dû manger ensemble, faire les grands repas des familles, non ? Donc, Yosef, vous croyez qu'il n'est pas venu avec sa femme ? Il est venu avec Asnat, l'Égyptienne, maquillée, toute belle, qui sent bon. Certainement qu'elle devait être mignonne, hein ? Aïe, 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 aïe. Parce que Yosef était vraiment beau. Ben oui, ben quoi ? Et donc, à un moment donné, il nous faut dire que les enfants, ils sont pas nés dans la nuit, hein. Ils étaient là. Et Yosef a dû dire, tu vois, ça c'est ton grand-père, que tu n'as jamais connu, mais qui est là, et qui a dû lui raconter tout ça. Ça a dû être merveilleux comme réunion familiale. Et puis d'un autre côté, nous voyons qu'au moment où il faut faire la bracha, Yaakov dit à Yosef, Mielé, quelle est cette brisure que tu m'apportes ? Quelle est la brisure d'Israël ? Quelle est la rupture spirituelle ? Et il est là, Yosef, il dit, c'est mes fils. Et il va y avoir des choses étranges que l'on va voir, mais il nous faut comprendre que déjà Yaakov voit que ce qui est normalement là, en train d'être uni en tant que tribu, future nation, peuple, lié au salut, la rédemption, va être brisé dans le futur. Et il voit tellement clair, même si ça nous paraît étrange, que Yaakov ait pu se propulser si loin dans l'histoire, dans les siècles. Il voit. Et c'est pourquoi il va formuler avec des mots précis les brachot. Et ce qu'il voit, c'est que cette brisure sera la séparation de 10 tribus et de 2 tribus. Il y a toujours le chiffre 12. Mais un chiffre 12 dans une brisure. Non pas l'annulation du chiffre 12, non pas quelque chose qui va modifier, mais une brisure. 10 et 2 et non plus 12. Mais ça fait toujours 12. Mais c'est 10 et 2. Et c'est plus la même façon de comprendre et de calculer. Et ceci va se produire à un moment donné très précis dans l'histoire de Jéroboam. Alors il y en a qui aujourd'hui utilisent ça. J'avais parlé de ça il y a très longtemps. Il y en a plusieurs qui étaient avec nous. Et quand j'ai parlé là-dessus dans un certain contexte de cette brisure de Jéroboam, moi, si on avait pu m'assassiner avec des bazookas, on l'aurait fait, ou comme Goldorak, là, quand il envoie les... Ah ouais, moi, je connais pas les nouveaux dessins animés, je connais que les trucs que j'ai connus petits, moi. Moi, je suis dans la Torah, je suis pas dans la télé. Et il faut savoir que Jéroboam est un des descendants d'Éphraïm. Et que si vous mettez Éphraïm sur Internet, alors n'allez pas lire n'importe quoi non plus, mais vous allez voir qu'il y a un nombre de références bibliques dans les prophètes, les écrits, invraisemblable concernant le nom d'Éphraïm. Et qu'on se dit, mais est-ce que c'est anodin que Yosef apporte non pas seulement son fils, mais le nom de son fils? Et il le définit dans une identité, dans une âme. Et Yaakov, s'il a mis Éphraïm et Manaché, c'est parce qu'il savait que la brisure allait avoir lieu. Mais qui allait l'amener? Et c'est Jéroboam qui va amener cette brisure, ce schisme qui deviendra le schisme, la brisure entre Israël et l'Église. Le futur concile de Nicée, la rupture qui s'est passée après que les 12 shlechim du Mashiach aient été envoyés durant le premier siècle, apportant la gloire du Messie hébreu, juif avec Shabbat, fête de l'Éternel, et non pas le dimanche. Le dimanche, il est venu beaucoup plus tard. Et de réaliser, bien aimé, que ce n'est jamais les 12 ni le Messie qui ont mis le dimanche et qui ont remplacé Shabbat. Jamais. Et quelle que soit l'excuse que l'on nous donne, c'est le jour du Seigneur. Parce que alors là, j'ai bien discuté avec les théologiens. Mais j'ai de l'argument, de l'argumentation historique, théologique. Ma formation me le permet. Et je l'ai remis en place. Parce qu'ils ne peuvent pas tricher. Sur l'histoire, ils ne peuvent pas tricher. Ils peuvent mentir à leurs sentiments, par leurs sentiments, leurs désirs émotionnels qui s'envolent mais sans fondement. Ok, je respecte. Mais la vérité n'est pas là. Elle est dans l'histoire, dans l'historique. L'historicité constitue le filtre. Et nous voyons bien que ce que Jéroboam a fait, c'est qu'il a séparé Yehuda et Éphraïm. Il a séparé ce qui était du Messie de ce qui allait être, en quelque sorte, éloigné du Mashiach. Et quand on commence à comprendre ça, on se dit, mais où on va? C'est tellement extraordinaire, Mashiach. Et on voit les prémices de tous les schismes dans l'histoire, jusqu'au moment où, quand on commence à faire le tour, où nous voyons aujourd'hui la réunification des tribus. Et quel est l'héritage qu'il a donné à Yosef, Sichem? Shechem, c'est où Shechem? C'est Naplouse aujourd'hui. Il donne Shechem. Et on pourra aller loin. Ça, on va le développer, je pense, mardi, avec la suite. Et ce qui est extraordinaire, c'est de... Je voudrais simplement m'arrêter là quand même, de comprendre que le plan de Dieu, le nom, au travers du Mashiach, qui était la réconciliation, comme on l'a lu dans Éphésiens 2, le concile de Nicée s'est permis de toucher ce passage. Que vous le vouliez ou pas, ce que Yeshua est venu faire a été détruit par Nicée. Et que nous appartenons soit à la brisure, soit à ce qui est réconcilié, soit à ce qui est réuni, soit nous sommes dans la dispersion. Et regardez aujourd'hui, la multitude dénominationnelle, c'est une dispersion. C'est quelque chose qui démontre qu'il n'y a pas de vraie voie, mais qu'il y a énormément de choix. Et alors Paris, c'est à s'y perdre dans le labyrinthe. On ne sait même plus qui est qui là-dedans. Moi, vous me demandez qui est pasteur là-dedans, je ne sais même pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Mais, d'autre part, il faut nous poser la question. Est-ce que ce temps qui est en train de préparer des événements douloureux, graves, des moments vraiment pour Israël et pour les nations et les croyants, avec toute cette montée de haine, dont même ceux qui ne voient pas clair dans ce qui est en train de se faire, dans la persécution des chrétiens de l'Orient. Ça a commencé comme ça au début. Ça a commencé comme ça. Ne croyez pas que ça a commencé autrement. L'islam ne s'est jamais attaqué directement à l'Occident. Il a commencé par l'Orient. Et il est venu en Occident. Et aujourd'hui, il est implanté. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Soyez émotionnel et sentimental si vous voulez, vous avez raison. Mais soyez dans la réalité prophétique. Quand on pense qu'aujourd'hui, le nombre de chrétiens vivant dans le Proche-Orient, qui était énorme en chiffres, il n'y a seulement de ça que 30 ans, pour être assez généreux dans le chiffre, mais c'est plus court. Et qu'aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Laissons faire. Accusons Israël. Accusons les Juifs. Vous avez raison. Accusez. Levez-vous. Ok. Mais un jour viendra où Mashiach réunira. Et ce que je voudrais dire, c'est que chaque brisure, chaque brisement, chaque séparation devient une souffrance qui ne guérit pas. Sauf quand elle arrête, qu'elle stoppe la blessure de l'histoire et qu'elle se retrouve, elle guérit. Et c'est ce qui se produit. Aujourd'hui, beaucoup de gens guérissent spirituellement. Il est dur de sortir de certains milieux où on a été façonné dans quelque chose où on a été trompé même, illusionné. Et tout à coup, de revenir à quelque chose qui nous engage et qui vous engage en tant que non-juif à rejeter Nicée le dimanche. Allez, j'y vais carrément, tiens. Ça soulage. De revenir à ce que dit Dieu et non pas ce que disent les hommes. De revenir à l'obéissance et non à l'adoption d'une doctrine. Ah, ça, c'est doux, hein. C'est théologique, ça. Là, j'aurais un prof qui est décédé, maintenant, il aurait été très content de moi. Il aurait été là, il aurait... Il y en a un autre, il aurait fait un petit peu plus... Voilà. Mais vous comprenez que nous ne pouvons plus rester dans ce qui sépare tout en voulant se greffer à nouveau. Car ce que dit Romains 11, il dit, quand la greffe aura été faite et que tout aura... été accompli sur la terre dans le cadre de la mission qui a été confiée, à savoir le message qui a été parcouru dans toute la terre, et que les Juifs seront regreffés, reviendront sur leur propre racine, sur la racine d'Israël, c'est quoi? C'est le retour en 1948. C'est le commencement de la réhabilitation de l'identité naturelle et spirituelle d'Israël par rapport au règne du Messie. Et là, tout à coup, eh bien, il est écrit que c'est à ce moment-là que tout Israël, mais Israël c'est aussi le circoncis de cœur, le vrai messianique qui n'est pas dans Nicée. Tu veux être un vrai chrétien, un vrai croyant. Tu veux être quelqu'un qui n'est pas simplement un joueur qui flirte, qui est dans les rebonds sentimentaux, mais qui veut établir le réel, le concret, la vérité dans ton cœur et dans ta vie et dans ta famille. D'avoir la cohérence de Dieu en toi. Tu n'as pas 36 choix à faire. Je ne te demande pas de venir ici. Non. Je ne vous demande pas de quitter nulle part. Je vous demande d'aller interpeller. D'aller interpeller un petit peu plus vigoureusement les personnes qui justifient la brisure. Parce qu'il est vrai qu'à un moment donné, la descendance de Yosef, d'Éphraïm, va venir vers Yehuda et va dire « Moi, je suis de la descendance de Yosef et d'Éphraïm, et toi, qui es-tu, Yehuda ?» Et il marque une opposition, c'est dans le cadre de Shimi, quand il vient maudire David. Et on voit, il vient maudire la royauté de David, afin de dire « Mais nous voulons prendre la royauté, et Yehuda, nous voulons enlever le sceptre qui t'a été donné. » Mais il est impossible de lui enlever. Et donc, là, aujourd'hui, nous voyons que dans le plan de Dieu, cette séparation est en train de, gentiment, on peut dire, lentement, est en train de changer. Parce que 2000 ans d'histoire, 2000 ans de séparation, pendant 2000 ans, combien de Juifs étaient présents dans les assemblées? Combien il y avait de Juifs? Dans la guerre de 39-45, combien de familles françaises, chrétiennes, fêtant Noël, se souhaitant bonne année, ou les Allemands, ou ceux qui étaient les complices du Troisième Reich, combien ont sauvé, protégé des Juifs? Il y en a. Il y a des justes dans les nations. Il n'y a pas eu que des méchants. Il y a même eu des pères de l'Église courageux qui ont défié l'autre trouillard, qu'on a voulu réhabiliter, béatifier, n'importe quoi, et qui a laissé faire le massacre. L'autorité spirituelle la plus grande du christianisme a laissé le massacre. Il bouge plus aujourd'hui, et encore, seulement par discours. Et on peut être étonné de la manière dont sont conduites les choses. Et c'est pourquoi, si on veut devenir véritablement des personnes qui font partie de cette prophétie de Yaakov, qui se greffent, qui vont préparer le règne du Messie qui vient, car tout ce qui se produit maintenant, c'est exactement ce que Yaakov annonce à ses enfants. On n'a pas touché encore beaucoup de choses. Mais il prévoit et il dit, et Mashiach ne nous a-t-il pas dit ce qui allait arriver avant qu'il ne vienne? Qu'il y aurait ce qui se produirait. Et que nous devons être vigilants. Vigilants. Et regardez, ce schisme a eu des conséquences dans tous les ministères dits unis. Et toutes les dénominations connues, toutes les dénominations établies aujourd'hui, qui n'ont pas un fondement historique, comme l'Église méthodiste, par exemple, qui est venue par Wesley, et qui n'a pas été une concurrence, mais un phénomène qui s'est produit dans un temps relativement court, mais qui s'est produit et qui a amené, en quelque sorte, une connaissance de Dieu dans les lieux, les pires qui soient, de débauche. Mais je parle des nouvelles dénominations. Les dénominations peut-être auxquelles vous appartenez, qui se font par des hommes dont on ne sait pas l'historique, qui s'appellent par eux-mêmes, qui ont eu des visions, des révélations non attestées, où des hommes n'ont pas été éprouvés, n'ont pas été suivis, évalués. Et en même temps, la plupart ont fondé des assemblées par désaccord, par schisme. Regardez comme la descendance va commencer à jouer dans l'opposition de celui qui veut posséder le futur et la vérité, et de celui qui dit qu'il va être meilleur que l'autre. Car tous ceux qui ont provoqué ces divisions, normalement je ne devrais même pas m'en occuper, mais je sens que ça doit concerner quelques personnes. Eh bien, ils se sont opposés, rebellés, ils ont rejeté la bénédiction, l'autorité spirituelle dans la transmission d'une descendance. Ils ont rejeté un futur qui aurait été béni par Dieu s'ils étaient restés fils. Et le fonctionnement aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Et le fait de diviser, ils vivent après eux-mêmes les divisions. Et c'est une multiplication de divisions, les églises aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas des appels de Dieu avec la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. C'est des désaccords, premièrement humains, de personnalité, d'orientation éventuellement, de vision, après de doctrine. Et la doctrine vient très loin derrière. Ce n'est pas la croyance. C'est les personnes. Et lorsque nous voyons ça, et que nous allons dans des pastorales, ou que vous avez l'occasion peut-être de côtoyer, eh bien, parfois vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi un tel rejette un tel? Pourquoi l'autre y critique? Et pourquoi l'autre, il n'aime pas l'autre? Pourquoi ils ne prient pas ensemble? On est dans le même quartier. Qui vient prier ensemble avec nous? Il y a combien d'églises ici? N'a combien? Depuis 1975 ou... Non, 85, 81, je ne sais plus. Non, 81, j'étais là, donc... 75. Pour les Suisses, 75. Depuis 75. Écoutez bien. Que Paul Guénassé est venu là, dans ce lieu. Mais l'œuvre existe depuis 1964. Vous pouvez me dire, davantage vous qui étiez là à l'époque, qui a bien suivi, combien de pasteurs sont venus prier ici, du quartier? Allez, dites-moi. Dites-moi. Non, pas aucun, mais peu. Il y a eu André Boulagnon, mais qui après a...
Et puis Marc-Joseph. Marc-Joseph aussi.
Ouais, mais alors lui, il a complètement dévié, lui. Non, Marc-Joseph, non, c'était pas un pasteur du coin. Il a été formé là, par Paul Guénassien, et en arrivé à la pensée marcioniste, où il en est arrivé. Il faut être vraiment malade mental. Vous voyez, vous voulez l'unité. Laquelle? Une unité fictive, virtuelle, de sentiments. Peut-être vous priez même pour ça. Mais forcer un peu, secouer ces pasteurs. Aider, faites quelque chose pour la réunification. Que Fadma, elle fait quelque chose que j'aime beaucoup entre juifs et arabes et toute dénomination, c'est qu'elle essaye de réunir ce qui n'est pas compatible. Et ça, j'aime bien. Parce que plus c'est incompatible, plus c'est beau. Parce qu'au moins, on peut s'affronter. Et on ne va pas se mettre à parler de l'un ou de l'autre à distance, sur ces deux, par écoute. Et après, on démolit du haut de la chair ce que l'autre a dit. Ça, c'est pas mon style, et je m'y refuse. Mais c'est le style de beaucoup. Et c'est dommage. Parce que soit nous restons dans la rupture, même du quartier, de l'unité de ce que Dieu pourrait faire là, à tous les niveaux. Non pas que nous, juifs, nous allons nous conformer par sentimentalité au christianisme, ça c'est exclu. D'ailleurs, ils le verront très vite. Que nous garderons le Shabbat, qu'ils viendront à Shabbat, qu'ils vivent un Shabbat avec nous, qu'ils vivent un Erev Shabbat avec nous avant de nous critiquer, avant de dire c'est la loi sans savoir ce que c'est. Qu'il vient. Et je crois que ce qui est en train de se produire, même si je n'avais pas prévu de dire ça, c'est qu'il y a les prémices d'une réunification, et c'est vous, juifs et non-juifs ensemble. Les prémices de cette réunification, de ce qui est en train de gêner, déranger, c'est, regardez, et il y a tellement de nations que nous représentons ici que j'arrive plus à savoir qui vous êtes. Mais je dis, nous sommes un dans le Messie. Ça, au moins, je peux le dire. Mais le reste, nous avons des Maghrébins, des... Oh là là, il ne faut pas que je me mélange maintenant. Du Portugal, des Italiens, on a tout l'Afrique représentée dans sa diversité, les Antilles dans leur diversité. Moi, je ne sais plus où j'habite. Hein. Il y a des Juifs Ashkenaz, séfarades, des Arméniens. Ah, qui peut faire ça? Nous revenons comme au premier siècle. Toutes les nations dans la maison de Dieu. Bah. Ça, c'est beau, parce que nous ne construisons pas une doctrine, nous ne défendons pas un point de vue, nous ne défendons pas une religion. Nous obéissons à Hachem, par Yeshua. Et je crois que c'est ce qui est extraordinaire, parce que la conclusion que je voudrais donner, alors que j'allais rentrer dans un autre mystère, mais bon, restons sages. C'est que la réunification ne doit pas se construire sur la conviction de dogme, parce qu'elle a été la base de la séparation, la croyance dogmatique. Je crois en ceci, et si tu ne crois pas la même chose que je crois, tu es un hérétique. Et il y en a qui vous le disent à tous les niveaux. Et ils pensent que leur vérité est la seule, unique vérité, la toute-puissante vérité, la seule qui régnera. Donnez-leur un stage de 6 mois ici, et on verra. Je n'y crois pas que nous puissions amener la réunification seulement par la conviction doctrinale, par le passage des dogmes, par de la gentillesse, du respect de la... Non. Seulement lorsque nous allons commencer à faire un chemin ensemble, quand on va commencer à reconnaître, nous, juifs, nos erreurs, nous, juifs messianiques également, et que derrière, les autres vont reconnaître aussi, et qu'on va marcher à la lumière du Mashiach. Maison de Yaakov, marcher à la lumière du Messie. Ce ne sera pas simplement de dire, eh bien, nous avons raison, si on fait Shabbat, et on est mieux, et on est supérieur, qu'est-ce que c'est ça? Déjà, fait bien, 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 vraiment le vrai Shabbat. Mais il n'est pas question d'avoir une supériorité, mais une conviction du futur, une conviction du combat, une conviction de la manière dont on doit prier à nouveau aujourd'hui, la manière dont on doit aider aussi ceux qui deviennent les victimes de toutes ces divisions et de tous ces schismes et de toutes ces ruptures, deviennent les ruptures de l'identité de l'individu dans une assemblée, pouvant devenir schizophrène spirituel, un blessé intérieur, la rupture dans les familles, dans les couples. Tout ce qui a été touché est un fruit, un résultat, parce qu'il n'y a pas l'unité avec Dieu. Et tout ce qui est fondé sur ce qui a conduit à la division et au schisme sera toujours un chemin de séparation. On s'aime au début et on ne s'aime plus après. On est bizarre. C'est la modernité. Rester comme Yosef avec une seule femme, oula, ça devient trop dur pour beaucoup. Mais oui, il y a des croyants aujourd'hui qui sont en cachette polygame, qui parcourent à droite et à gauche. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Et en même temps, la sainteté du nom de Dieu, comme on l'a relevé tout à l'heure, est bafouée. Le nom de Dieu est coupé en deux. Il est ailé. Mais il n'est plus Dieu. Qui ? Et nous avons besoin, justement, de recréer cette identité. Parce que j'en suis convaincu que toutes nos maladies, les choses par lesquelles nous passons, le temps de vie qui nous reste, peu importe, sont une indication de quelque chose où nous n'avons plus de temps à perdre, où il faut construire maintenant, où il faut vraiment entrer dans quelque chose. Pas simplement dans le sentiment de vouloir faire valoir ou d'essayer de se guérir en faisant quelque chose, en se créant son identité de reconnaissance vis-à-vis des autres. Là, tu rentres dans la blessure à nouveau. Et ta destruction peut arriver quelques années après. Mais une véritable guérison de l'identité de l'âme humaine et des couples et des familles va passer par l'obéissance à Dieu. Ceux qui vont faire le vrai Shabbat vont mettre la protection de Dieu sur leur couple. Ils vont amener la présence divine. Imaginez, et je suis convaincu, et je ne pense pas que vous pourrez me rouler là-dessus, il y en a qui prient ensemble en tant que couple. Mais combien de couples ne prient même plus ensemble? Combien de couples ne prient même plus ensemble? Combien de parents, de pères, ce qui devrait être un père, un Yaakov, n'est même plus avec le fils, avec l'enfant? Ah, on est trop pris. On a trop de choses à faire. Ah, il y a l'émission préférée. on a Internet, il faut répondre aux emails. On est envahi par ce qui divise. Et si nous voulons trouver le chemin de la guérison, de quelque chose qui restaure l'âme, alors à ce moment-là, il faut revenir au principe de base que Dieu a établi. Ça ne veut pas dire une obligation de faire le Shabbat à la juive, soumis à une tradition orale rabbinique, mais dans le Mashiach, tout en étant respectueux de ce qui est là. Et que, quelque part, je peux vous le dire, et je vais conclure là-dessus, j'ai débordé, pardon, mais j'aimerais dire que il y a des choses où, sur plus de 30 ans maintenant de service avec Dieu, j'ai vu qu'il y a des choses où t'as beau faire ce que tu veux dans un couple par rapport à des gens qui souffrent, leur souffrance est interminable. T'as l'impression que tu peux tout faire, donner tout ton temps, donner toutes tes prières, amener tous les gens qui prient, ça change rien, ça soulage. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, une espèce de médicament à effet lent, mais provisoire. Ça, voilà. Par contre, on aura peut-être de la reconnaissance par rapport à celui qui s'occupe beaucoup de nous, mais à combien d'efforts? Et je suis convaincu qu'à partir du moment où nous appliquons quelque chose que j'ai vraiment compris, que ce ne sont pas nos forces, ce n'est pas non plus la persuasion que nous voulons donner aux gens, que la guérison se fera, mais c'est l'obéissance qui guérit. Amen. Et quand la réunification, c'est pourquoi Satan combat beaucoup. Il voudrait détruire le mouvement messianique aujourd'hui. Parce qu'il est le seul élément réunificateur des deux aujourd'hui. Il est l'élément clé. Et que lorsque nous comprendrons que la prière de Yeshua Mashiach, telle qu'il a donnée, de dire si deux ou trois s'unissent en mon nom, ben là vous trouvez le sens de ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas d'être assis ensemble, et l'un pense au rôti, l'autre pense à combien de temps ça va durer, il est là avec sa montre, elle est longue la prière aujourd'hui. Hein. Il faut vite que j'aille travailler. Hein. Et Eddie qui prie, c'est qu'il a fait trois mots. Hein, il a balancé quelques petits machins, il s'est défoulé pour lui-même, il a prié pour lui plus que pour les autres, et après, voilà, il a prié, il est tout content, il est pétillant. Il faut arrêter, c'est pas ça. Et je peux dire une chose, c'est que rien que le fait de dire Yeshua Mashiach, comme au temps de Pierre, on n'est pas mieux ni moins que Pierre. Ni que les autres. La seule différence, c'est qu'ils servaient le maître. Ils obéissaient au commandement du maître et ils étaient dans la Torah. Et l'ombre de Pierre guérissait. Il n'y avait pas besoin de tout ce folklore-là qu'on nommait, avec professionnels musicaux, accompagnement musical, thérapie, zen. Tu tombes dans l'esprit. Tu te réveilles, tu ne sais pas ce que tu as vécu. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. À chaque fois, j'allais les réveiller. Moi. Quelques petites claques. Oh ! Et une fois, j'ai même parlé à quelqu'un. Il était couché comme ça. Je ne savais pas pourquoi il était couché. Et quand il était couché, je lui parle. Et c'était quand même sympa. C'était bien ce que je lui avais dit. Deux jours plus tard, il vient me voir. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit quand j'étais couché ? Moi, j'ai dit, j'ai cru que t'entendais, tu faisais... J'ai cru que tu s'ouvrais. Et il n'a rien compris. Et qu'est-ce que tu veux prier à quelqu'un qui n'écoute même pas ? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu à quelqu'un qui est complètement à l'ouest ? Tu peux pas. S'il est à Prague, en esprit, et que toi, tu es à Jérusalem, ça va pas. Alors... Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai fait certaines choses avec des gens, avec des couples, je ne dis pas que tous les couples, ça marche. Alors, loin de moi. Mais il y a des choses où je peux mettre un an avant de comprendre l'histoire ou de machiner. Même deux ans. Et oui, je n'ai pas pressé, moi. De toute façon, les gens traînent ça depuis des années. Hein. Et en 3 mois, il faudrait guérir. Non, mais ils ne sont pas bien. Et il faut comprendre un cheminement, quelque chose qui s'inscrive dans le temps. Que j'ai vu des couples vraiment, hein, dans la plus grande violence physique, des croyants. Lui-même était ancien. Et il tabassait sa femme. Mais tu le voyais à l'église. Alléluia. Et j'en ai vu. C'est pas pour les critiquer. Mais personne ne sait comment il faut faire pour être rétabli. Ce n'est pas d'éloigner de la souffrance, c'est de vivre dans la compréhension de sa souffrance qui guérit. Et quand on a commencé à mettre des pratiques simples, les couples se sont retrouvés de séparés, ils se sont rapprochés. Et aujourd'hui, ils sont amoureux. Après plusieurs années. Il y en a avec qui ça n'a pas marché. Il y en a parce que le cœur était tordu. Parce que le monsieur, il avait déjà déterminé d'avancer. Je lui ai dit, t'es un faucheton. T'as profité de la madame. Et maintenant, tu veux te casser. Tu veux trouver un pasteur qui va justifier que tu n'aimes pas. Je l'ai mis dehors. Je ne peux pas supporter ça. Et il nous faut vraiment, bien aimé, si nous voulons vraiment reconstruire quelque chose. Il reste quelques années pour moi. Il vécut. Un jour, quand vous parlerez de moi, vous direz, il est passé par là. Il a passé un jour d'air. Il faut accrocher nos cœurs. Vous savez, c'est vraiment prophétique ce qu'on a dit aujourd'hui. Et je peux vous montrer mes notes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Et qu'on aurait dû développer d'autres choses beaucoup plus encore. Mais je crois qu'il y a un temps que Dieu nous donne encore, réellement, pour construire, pas des ponts, vous savez, j'ai horreur de ces espèces de dénominations qui existent aujourd'hui. Soyons dans la relation du respect de l'être humain créé à l'image de Dieu avec le Mashiach en lui. Celui qui a le Mashiach en moi a le Mashiach en lui. Nous sommes un dans le Messie. Et que nous ne sommes pas des chrétiens et des juifs. Nous sommes des juifs selon Dieu. Un Israël selon Dieu, avec le cœur circoncis. Tu n'es pas un chrétien dénominationnel. Autrement, je t'appelle protestant, évangélique, charismatique, atok. Si tu veux une identité, je te la donne. Je suis assez bon là-dedans. Mais Paul n'a jamais parlé comme ça. Il a dit, nous sommes les circoncis des cœurs. Alors, vous pouvez vouloir rester, et comme je l'ai souvent entendu en disant, je ne suis pas juif, je suis chrétien, ou j'ai l'amour des juifs, tu es dans la séparation déjà. Tu n'es pas dans l'identité. Tu n'es pas dans la finalité, tu n'es pas dans l'accomplissement, tu es dans le retrait. Et un jour ou l'autre, il se produira quelque chose qui séparera totalement. Donc il faut être prudent. Il faut construire. Construire. Yeshua Mashiach, c'est à toi qu'appartiennent les temps